religions du monde. Geneviève Delru.
Moi, je sors de là, on ne sait pas ce qu'est le résultat, mais je suis très satisfait de la manière dont les débats se sont suivis. Voilà, j'ai trouvé que c'était un procès de belle tenue avec ces enjeux-là.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le procès du cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, et de 5 personnes de son entourage pour non-dénonciation à la justice des agressions sexuelles d'un prêtre pédophile de son diocèse s'est achevé jeudi dernier. Nous venons d'entendre un des avocats des plaignants, Maître Boudot. La procureure adjointe du tribunal correctionnel de Lyon n'a requis aucune condamnation. La décision a été mise en délibéré et on connaîtra le 7 mars prochain le jugement. On saura donc si l'archevêque de Lyon est déclaré coupable ou non de ne pas avoir dénoncé le père Prénat, aumônier à Lyon, accusé d'avoir abusé de plus de 70 scouts dans les années 70-80. Ce sont 10 victimes, membres de l'association La Parole Libérée, qui ont demandé la comparution du cardinal Barbarin et de son entourage. En 2016, un premier tribunal avait classé l'affaire sans suite. Aussi, les 10 victimes du père Prénat, en choisissant cette procédure, ont voulu mettre l'Église publiquement en face de ses responsabilités et ouvrir aussi plus largement un débat de société sur la non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs. Pour eux, le cardinal Barbarin, arrivé dans le diocèse en 2002, était au courant, depuis au moins 2007, des agissements de ce prêtre. En 2014, Alexandre Ezez, un des cofondateurs de la Parole Libérée, avait rencontré l'archevêque de Lyon et ce ne sera qu'en août 2015 que le père Prénat sera suspendu. Cette affaire du père Prénat, devenue le procès Barbarin, illustre la longue prise de conscience au sein de l'Église de la gravité de la pédocriminalité et de la culture du silence qui, du reste, prévalait jusqu'à une époque encore récente au sein de la société. Dans le cadre d'un partenariat avec la Croix, nous revenons avec Céline Oyot du service Religion sur les enseignements de ce procès. Est-ce que l'on peut dire que le jugement est finalement moins important que la tenue du procès, de ce face-à-face des victimes avec l'institution qui a dans le passé failli et dont le cardinal Barbarin est à la fois le représentant et le symbole.
C'est vrai que ce procès a été d'un impact et d'une symbolique très fort, très dense, et on peut se dire que la décision, d'une certaine manière, même si elle est très importante et pour les victimes et pour les prévenus, sera peut-être moins importante que tout ce qui se joue derrière et comment ces débats ont permis d'avancer dans ce débat de société, dans ce débat d'église sur la lutte contre la pédophilie.
Céline Oyot, au cours de ces trois journées et demie, même presque, puisque le procès était un rallongé d'une demi-journée, est-ce que vous avez vu une évolution chez les uns et les autres? Là, je pense au cardinal Barbarin et à ceux qui l'accompagnaient.
Il y a eu ce choix de parler ou de se taire qui a été fait. Donc la stratégie de la défense au départ était de ne pas parler, de simplement lire des déclarations. Chaque prévenu était venu avec une déclaration poignante où il disait leur compassion pour les victimes et aussi leur incompréhension d'être traduite en justice pour avoir couvert des faits qu'ils estimaient ne pas avoir couverts. Donc ils avaient cette déclaration et ensuite ils voulaient exercer leur droit de se taire à la barre. Un premier l'a fait, l'ancien directeur de cabinet du cardinal, et ça a été tout de suite très mal perçu dans la salle. Même la présidente du tribunal s'est agacée, trouvant que c'était mal commode, même si elle respectait son choix. Et après ce premier témoignage, il y a eu donc une demande de suspension d'audience, et les avocats de la défense ont changé de stratégie, voyant que c'était très contre-productif. De fait, l'avocat des parties civiles n'a pas manqué de souligner qu'en fait ce choix du silence était à ses yeux symptomatique d'une église qui veut contrôler la parole et qui reste murée dans le silence, veut cacher les choses. Donc celui qui est venu à la barre ensuite, le cardinal Barbarin, a dit s'il y en a un qui doit parler, c'est moi, et donc il s'est prêté ensuite aux questions.
Alors, un cardinal Barbarin qui, donc, au début, effectivement, se mure dans le silence, après, donc, vous l'expliquez, choisit de parler, de dire, voilà, je ne comprends pas pourquoi je suis ici, je n'ai rien fait. Ça a toujours été sa ligne, ça.
Oui, il a toujours dit que pour lui, il n'avait jamais, au grand jamais, voulu couvrir le père Prénat, ni quelque autre prêtre pédophile. Et il n'a cessé de rappeler ces exemples où, quand il avait été confronté à des prêtres pédophiles dans son diocèse, il les avait aussitôt non seulement relevés de leurs fonctions, mais dénoncés à la justice. toute l'ambiguïté, toute la complexité de ce procès, le cœur de la polémique, c'était de savoir, mais au fond, quelle était l'ampleur des connaissances du cardinal Barbarin avant 2014, avant que Alexandre Aizé vienne le voir en lui disant « Je ne comprends pas, ce prêtre qui a abusé de moi quand j'étais enfant est toujours en fonction, en paroisse, dans le Rouennais. » Et donc c'est là, et le procès a permis d'entendre toutes les parties et de voir la complexité, effectivement, parce que du côté des victimes, on souligne les contradictions de l'Église. Du côté des prévenus, donc le cardinal a-t-il été averti dès 2002 quand il est arrivé à la tête du diocèse de Lyon? Alors il dit que non, puisque ses prédécesseurs sont morts assez rapidement les uns après les autres et que la mémoire des dossiers ne lui aurait pas été transmise précisément. Est-ce qu'il a été alerté par la suite par une journaliste, Isabelle de Gaumin? Alors il dit qu'elle lui en a parlé, mais que c'était très 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 flou. Et il fait valoir que c'est d'ailleurs lui qui avait rappelé à cette journaliste cette entrevue. A-t-il été alerté par la suite alors qu'une victime était allée voir son auxiliaire en 2011 pour partager ses souffrances d'avoir été abusé par Prena? Il dit qu'on lui a pas transmis l'information. Donc où a-t-il été aussi alerté, tout simplement par Bernard Prena, qu'il a rencontré en 2010 en entretien et à qui il avait demandé mais est-ce que ça s'est reproduit, s'est fait depuis 91? Et Prena lui avait dit non, j'ai été bouillanté par la vérité. Mais le cardinal dit à l'époque, je ne savais, enfin c'était des faits anciens, il n'y avait plus eu de nouvelles victimes. Et surtout, d'après le cardinal, il n'avait pas pris conscience de l'ampleur de ce qui était reproché au fond à Prena. Donc voilà, c'est toute l'ambiguïté de ce procès, sachant que Alexandre Aizé, lui, en 2014, vient dire au cardinal voilà les faits. Et donc la question, c'est est-ce que le cardinal n'avait reçu que des rumeurs, ou bien est-ce que c'était plus précis que ça?
Est-ce que l'on peut dire, Céline Oyot, que les prévenus, le cardinal Barbarin et les cinq autres prévenus, donc de son entourage, ont aussi évolué au cours de ce procès face aux témoignages très poignants, parfois très crus, des plaignants?
Je pense qu'il y avait une conscience déjà des souffrances des victimes d'abus sexuels. Là, ce qui a été très fort aussi dans les témoignages, c'est qu'elles ont parlé non seulement des souffrances terribles de ce qu'elles avaient vécu, notamment l'une d'entre elles, Christian Burdet, a raconté dans des termes à la fois pudiques et très crus le viol qu'il avait subi à 11 ans, le premier d'une série. Mais toutes ces victimes ont témoigné aussi des souffrances par la suite, de l'impact de ces abus, du traumatisme qu'elles ont subi, du silence dans lequel elles ont été enfermées pendant parfois 25-30 ans pour certaines. Et c'était ça, tout le préjudice qu'elles voulaient mettre en avant, le préjudice personnel, direct, qu'elles avaient subi de cette non-dénonciation de l'Église, d'avoir été enfermées dans ce secret. Et plusieurs se sont demandé, mais au fond, qu'aurait été ma vie si des personnes avaient parlé plus tôt? Qu'aurait été ma vie professionnelle, sentimentale, sexuelle, spirituelle? S'est interrogé Christian Burdet, tandis qu'un autre, Pierre-Emmanuel Germain-Thil, montrait qu'il avait été enfermé dans ce petit secret que lui avait imposé Bernard Prena pendant 25 ans et que ça aurait permis à son entourage de mieux comprendre ses attitudes, son mal-être, ses échecs, s'ils avaient su plus tôt ce qu'il avait subi. Ce qui a été fort, c'est que à la sortie du procès, un proche du cardinal m'a dit que la phrase qui l'avait le plus marquée pour l'instant dans ce procès, c'était quand une victime avait dit « Mais vous avez souffert depuis 3 ans, entre parenthèses, des attaques dans la presse, etc. Mais moi, j'ai souffert depuis 30 ans. »
Céline, on va laisser la parole quelques instants aux avocats et aux plaignants de la parole libérée, hein, parole recueillie donc à la fin du procès par Pierre Olivier, journaliste au service France de RFI. Alors, dans l'ordre, on va entendre Maître Luciani, l'avocat du cardinal Barbarin, et puis de la parole libérée, François Deveau, Laurent Duverger, Alexandre Ezez et Pierre-Emmanuel Thiel.
Il a une responsabilité sur le plan de la gestion du diocèse. Il n'y a dans cette affaire pas la moindre faute pénale. Ce que nous disons depuis le départ, il n'y a pas de faute pénale. Je sais, vous avez tellement dit et écrit l'inverse, mais je le comprends, qu'il sera sans doute difficile de revenir un peu en arrière, mais j'espère qu'en écoutant ce qui s'est dit, bien vous arriverez à avoir une vision peut-être plus sereine de ce qui s'est passé.
Vraisemblablement, il souhaite être jugé par la justice de Dieu. Il dit que lui, ce qui lui importe, c'est d'être jugé par la justice de Dieu. Jusqu'à maintenant, on fait tout pour fuir la justice des hommes. On fait valoir des vices de forme. Voilà, c'est assez incohérent et incompatible en fait avec les valeurs prônées par l'Évangile. Donc là encore, où est le sens de tout ça ?
Pour moi, c'est une page qui va se tourner, c'est un aboutissement. Rencontrer aujourd'hui de nouveau ces gens après tant d'années et les voir des fois se prendre les pieds dans le tapis, je crois que oui, c'est pour moi en tout cas, ça changera énormément les choses. Après, je crois qu'on a fait un travail assez exceptionnel, sans vouloir nous jeter des fleurs depuis 3 ans, en faisant vraiment avancer les mentalités, en permettant à des centaines de victimes de par la France de pouvoir révéler les souffrances qu'elles avaient subies et vécues, pouvoir porter tout ça devant la justice. Donc oui, les choses avancent, et elles avancent bien.
En fait, depuis le début, depuis 4 ans, on n'est jamais prêt, mais en fait, le tout, c'est d'être sincère et finalement d'agir pas forcément pour soi-même, mais pour les autres. Ça, c'est le plus important. Et je pense à toutes les victimes qui sont là, ou je pense à toutes les victimes qui n'ont pas pu être là. Je pense à une certaine personne qui s'est suicidée il y a quelques années, du fait de cela aussi. Et c'est ça qui donne un peu la force, et qui donne surtout la force d'agir. Après, il faut être serein en étant finalement très sincère.
Je pense qu'il y a eu suffisamment de choses dites, expliquées, détaillées, des attitudes, des postures de personnes, pour qu'il n'y ait pas de sanctions derrière. Donc je m'en remets au juge, on verra très bien ce qu'ils feront d'ici le 7 mars. J'espère que les pressions qui ont été mises par la partie adverse et notamment par le parquet ne faussent pas leur jugement. J'ai envie de faire confiance à la justice de mon pays. J'ai jamais été dans un procès judiciaire. On verra très bien comment ça se finira.
Céline Oyo, on peut considérer que ce procès Barbarin est un tournant pour l'Église. Cela dit, tout n'est pas non plus réglé. Il y a la question de la prescription. Est-ce que cette question, finalement, s'ouvre de façon vraiment très brûlante avec ce procès?
En fait, ce procès a permis aussi de soulever un débat juridique très intéressant sur la non-dénonciation. Est-ce que l'obligation de dénoncer, c'est un délit, alors dans les termes juridiques, instantané ou continu? C'est-à-dire, si c'est un délit instantané, il y a une prescription et après 3 ans, on n'est plus condamné pour ne pas avoir dénoncé, ou bien est-ce que c'est un délit continu, c'est-à-dire que si je sais que mon voisin a abusé de sa fille, si je le sais lundi, est-ce que je dois arrêter de dénoncer mardi? C'était l'exemple qui avait été donné par l'avocat des parties civiles. Donc il y a eu ce débat, et donc est-ce que d'une part c'est un délit continu ou instantané, et puis d'autre part tout le débat a été autour de cette question posée par la défense, mais au fond, pourquoi est-ce que le cardinal et son entourage auraient dû dénoncer à la place de ces victimes qui étaient adultes en capacité de le faire? Et donc tout ce débat, c'est de dire, mais au fond, ce que rappelait la défense, le délit de non-dénonciation, il s'adresse quand on dénonce pas pour un mineur, mais pour un majeur, est-ce qu'on devrait le faire? Et les parties civiles, elles, ont plaidé sur le fait que on dénonce pas seulement pour les victimes, mais pour la société. Et que donc, d'une part, et qu'ensuite, les adultes qui sont venus se plaindre des faits de Prena, certes étaient adultes, mais ils étaient enfermés dans le silence et ils étaient dans un traumatisme psychique qui les empêchait de le faire. Ils avaient besoin aussi que d'autres les aident à le faire. Donc voilà, il y a eu tout ça en débat, et ce sera très intéressant de voir ce que la présidente du tribunal pourra dire aussi pour répondre à ce débat, et dans sa décision de justice, on verra aussi peut-être s'esquisser les contours de cette non-dénonciation.
C'est-à-dire que le 7 mars, ce qui serait intéressant, c'est non seulement bien sûr de savoir si si le tribunal déclare ou non le cardinal Barbarin coupable, mais l'argumentation qui sous-tendra cette décision.
Oui, effectivement, ça va permettre de mettre plus clairement les choses à plat et pour qu'on sache justement ce qu'on doit faire quand on est confronté à un adulte qui n'a pas dénoncé et qui pourtant se confie à nous de faits gravissimes.
Alors, pour conclure, Céline Oyot, qu'est-ce que ça va changer en profondeur pour l'Église? On peut dire que plus jamais un évêque, par exemple au courant de même de rumeurs, simplement de rumeurs, ne pourra rester effectivement passif.
Ben, en fait, c'est vrai que l'Église avait déjà pris des mesures très claires et les évêques se disaient vraiment très au clair sur le fait que, évidemment, quand ils sont confrontés à un prêtre pédophile, ils doivent le signaler à la justice. Mais là, on était justement dans une zone grise, c'était très complexe, et il était question de beaucoup de rumeurs, et donc ce qui a été souligné au cours de ce procès, c'est qu'au fond, tous ceux qui témoignaient parmi les prévenus disaient « bah voilà, j'entendais que des rumeurs », et à un moment, la présidente du tribunal a dit « mais la connaissance, ça se cherche ». Et c'est vrai que je pense que ce qui va changer, c'est que même en cas de rumeur, on laissera plus les choses dans le flou. Les responsables d'église, pour des faits anciens, déjà savaient qu'ils devaient être très attentifs. Mais là, quand ils feront peut-être plus le lien, il y aura peut-être une prise de conscience plus rapide. Parce que ce que montrait, moi, je trouvais les déclarations, c'était une sorte de point aveugle où en fait on avait entendu dire qu'il y avait eu un problème avec le père Prena, mais personne au fond est allé jusqu'au bout de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé et c'était quoi la teneur des faits et est-ce qu'il y a eu d'autres victimes. Il y avait une sorte de point aveugle il faudrait s'interroger sur les causes de ce point aveugle. Est-ce que c'est effectivement cette peur d'aller voir plus loin, cette peur de faire du mal à l'institution? C'est tout ce que les avocats de la défense ont dit, c'est une sorte de faute morale. C'est pas pour eux, c'est pas une faute pénale, mais c'est une faute morale. Et peut-être que c'est à l'Église aussi de s'interroger sur pourquoi on n'a pas pris conscience plus tôt, pourquoi
on n'est pas allé chercher voir.
Pourquoi on n'est pas allé voir chercher voir.
Merci Céline Oyot. Je rappelle que vous êtes chef adjoint au service religion du quotidien La Croix. Quelques mots encore sur ce procès hors norme, le procès donc du cardinal Barbarin. Avec nous en ligne de Lyon, Natalia Trouillet. Bonjour.
Bonjour.
Natalia Trouillet, vous avez été directrice de la communication du diocèse de Lyon, si je ne m'abuse, de 2012 à 2014.
C'est ça.
Donc ce procès du cardinal Barbarin que vous avez côtoyé au quotidien, vous avez évidemment marqué, vous l'avez suivi de près. Est-ce que vous estimez que le cardinal, finalement, a assumé ses responsabilités?
Oui, il les a assumés dans le sens où je crois que la stratégie des avocats de tous les prévenus était de ne pas répondre aux questions, non pas tant pour ne pas répondre aux plaignants que pour ne pas répondre à la presse, hein, si j'ai bien tout compris. En revanche, dès que la déclaration du cardinal a été terminée, il a bien précisé qu'il allait justement répondre aux questions finalement, parce que s'il y avait bien un responsable, a-t-il dit, c'est lui.
Donc un cardinal qui assume et en même temps qui dit « je n'ai rien fait de mal ».
Oui, alors là-dessus, il s'appuie, si vous voulez, sur la précédente décision de justice, hein, et c'est effectivement ce qui a corroboré le parquet, puisque la procureure, en concluant, a dit explicitement qu'il s'agissait du procès des parties civiles contre le plaignant et non pas de la République contre les plaignants, puisque il n'y avait pas de fait nouveau et que ce qui était reprochable au plaignant était prescrit et que l'autre partie ne tombait pas sous le coup de la loi. Donc, il part sur une lecture juridique. Ce qui est un petit peu dommage, parce que ce que les plaignants attendaient, j'imagine, c'est une lecture morale. Mais est-ce que la morale avait sa place dans ce tribunal-là? C'est pas certain.
Bah, la morale, si, quand même, elle avait sa place, largement, Natalia Trouillet.
Bah, disons que ce qui est jugé dans un tribunal, c'est le droit. Vous voyez, le droit, il peut être basé sur la morale, mais la morale, elle est décidée par l'ensemble du peuple français via les lois. Et à ce moment-là, il faut changer la loi, si vous voulez. Donc c'est un débat extrêmement complexe. Et quand le cardinal dit qu'il n'a rien à se reprocher, il se base sur la loi telle qu'elle est écrite.
Vous avez pu dire que finalement, ça n'était pas le bon procès. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là ?
Ce que je veux dire, c'est que c'était un procès de très haute tenue. On a entendu des arguments des deux parties qui étaient extrêmement intéressants et extrêmement bien défendus. La juge, la présidente du tribunal, a fait un travail absolument remarquable. Moi, je l'ai trouvé extrêmement impartial, dur avec les deux parties. Et ce qui m'a frappé, en revanche, c'est que je me disais, tout ceci, toutes ces pièces pourraient servir à un procès canonique. Et en fait, ben on n'est pas devant une juridiction canonique, on est devant une juridiction qui semble penser que l'affaire est close. Et du coup, c'est dommage parce que personne n'en sortira satisfait de cette histoire. Et du coup, enfin moi, ce que j'attends de la justice française, c'est vraiment le procès du père Prénat, pour le coup. Parce que on s'agite énormément autour du cardinal, autour des 7 autres prévenus, mais le père Prénat, jusqu'ici, on en parle très très peu, et c'est quand même le nœud de l'affaire.
Alors, puisque vous êtes lyonnaise, Natalia Trouillet, que laissera cette affaire du procès Barbarin à Lyon ? Des traces, on peut supposer, non ?
Oui, des traces, mais je suis un peu lyonnaise depuis quelque temps, parce que ma réponse va être à moitié lyonnaise, mais je pense que ça laissera, et je l'espère, des traces durables dans l'Église. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de me dire que en assistant à ce procès, c'était la première fois que j'assiste à un procès, il y avait des moments extrêmement violents, ce qui est normal, parce que la violence des choses qui ont été subies par les victimes est absolument incroyable. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, si j'avais été à la place de ces gens qui devaient décider, qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Je ne suis pas sûre du tout que j'aurais fait mieux, bien que étant mère de famille, etc. Tout simplement parce que quand on a quelqu'un en face de soi qui vous raconte des choses aussi épouvantables, on ne sait pas comment réagir. Je crois qu'on ne sait pas. Et ce que nous aura appris cette affaire, et c'est vrai que Mgr Gobillard a eu raison de remercier la parole libérée à l'issue du procès, c'est que justement, eh bien, on est tributaire de la parole libérée qui nous a montré, violemment sans doute, mais ça c'est pas grave, qu'il fallait absolument que l'Église apprenne à ne pas rester entre soi et à se faire accompagner par des juges, par des médecins, par des psychologues, etc., quand elle se retrouvait confrontée à des histoires comme ça dans son sein.
Je vous remercie, Natalia Trouillet. Je rappelle donc que vous êtes essayiste et puis que vous avez été directrice de la communication pendant 2 ans du diocèse de Lyon. Je vous remercie.
Religion du monde, Geneviève Delru.
À l'heure où la République démocratique du Congo attendait fébrilement les résultats de l'élection présidentielle, nous recevions en début de semaine dans notre studio un juriste et musicien, Daniel Rugamika, chef de chœur de la chorale des petits chanteurs de la résurrection de l'archidiocèse de Bukavu, région de RDC en première ligne pour l'insécurité et la violence. La paix, Daniel Rugamika l'a fait chanter aux garçons de ce chœur, un appel qui résonne fort dans cette situation post-électorale où la victoire d'Étienne Tshisekedi est contesté par les partisans de Martin Falulu et l'Église aussi, qui avec ses 40 000 observateurs considère que ce résultat n'est pas conforme aux urnes. L'Église de RDC très impliquée dans ce processus électoral et dans son bon déroulement. Alors question posée à Daniel Rugamika, est-ce que la tenue des élections en RDC, eh bien, est-ce que le pays les doit à l'Église ?
Dans l'organisation générale des élections, nous avons trouvé des irrégularités. Ceux qui sont sur place ont trouvé des irrégularités. Même après l'organisation des élections, on a trouvé des bulletins de vote jetés en pleine route ou en pleine rivière. Et tout ça, ce sont des irrégularités à déplorer de la part de l'organisation générale des élections.
Est-ce que l'on peut dire qu'effectivement, ces élections, le pays les doit à l'Église catholique ?
Je peux dire une partie, oui, mais...
En
partie, mais c'est toute la population qui s'est levée comme un seul homme, aidée par différentes églises, aidée par différentes organisations de société civile, pour bousculer le pouvoir, à organiser les élections.
Alors, il y a un dessin d'ailleurs tout à fait drôle hein, que reproduit La Croix Africa, donc le site de l'actualité religieuse du journal La Croix. Alors, on voit un évêque qui est coincé, un évêque congolais qui est coincé entre deux personnes. Et il y en a un qui lui dit « Mais qui a gagné les élections ? Ça n'est pas vos oignons, monsieur l'observateur. » Et puis, il y en a un autre à droite qui dit « Mais seigneur, le voilà qui parle comme un opposant politique. » Et puis, au milieu, il y a l'évêque qui dit « Nous devons surveiller la vérité des urnes. »
Oui, c'est ça, parce que le pouvoir en place, dès que les évêques parlent de ce qui se passe, bon, le pouvoir en place dit que voilà, les évêques ne doivent pas se mêler de la politique. Et personnellement, j'ai dit que les évêques, ils sont citoyens congolais comme tant d'autres, donc ils doivent s'intéresser de la réalité du pays, parce qu'ils vivent là, et ils sont aussi victimes souvent, et quand la population ou les chrétiens qui sont appelés à évangéliser sont meurtris, donc ils doivent intervenir d'une manière ou d'une autre pour sauver la population en général.
En tous les cas, Daniel Rugamika, vous chantez la paix, hein, les enfants donc du chœur de la chorale Petit Chanteur de la Résurrection, de votre archevêché de Bukavu, chante la paix. Parmi ces enfants, ils sont 180 au total, hein, oui. Entre 5, vous m'avez dit, et à peu près l'âge adulte. Oui. Parmi ces enfants, il y a des enfants nés de viol, des enfants qui ont vu leur mère violée, des enfants qui ont connu la violence depuis leur naissance.
Oui, nous avons ces enfants, cette catégorie des enfants qui ont vraiment subi et qui ont été d'une manière ou d'une autre victimes des exactions. Nous avons plusieurs aussi catégories des enfants qui ne savent pas de quoi sera fait le lendemain, et des parents qui ne savent absolument pas quoi faire pour la scolarisation de leurs enfants. Et tous ces enfants, nous devons les encadrer pour leur avenir. Et nous, de notre part, dans notre cœur, nous avons trouvé que la musique peut aider à détraumatiser ces enfants et leur montrer que voilà, l'avenir est là et que il faut l'espoir. On doit toujours espérer pour un monde meilleur.
Je reviens sur ces enfants qui sont nés de viol. Pour certains, donc c'était des jeunes filles hein, qui n'étaient pas mariées. Donc, ce sont des femmes qui sont seules. Est-ce qu'elles sont accueillies dans leur famille ou au contraire, est-ce qu'elles ont été rejetées? Comment ça se déroule?
Oui, souvent il y a des filles qui ont été violées, victimes de violences sexuelles, et qui ont été enceintes. Et voilà, ils ont mis au monde des enfants. Et là, c'est vraiment, nous devons être discrets dans ce sens-là pour les encadrer, parce que si vous présentez un enfant, voilà, qui est né de viols et violences sexuelles, déjà lui-même, bon, il est dépaysé, voilà. Et c'est un secret que je garde pour moi parce que le parent me l'a confié, alors je ne dois pas le dire tout haut, et c'est dans moi et que je dois le garder. Et tout ça pour une méthode en général pour apprendre à un enfant à chanter, un enfant qui est normal, entre guillemets, et un autre qui a subi des exactions de la part directe ou indirecte. Nous devons appliquer une méthode différente et qui unit tout le monde et qui les met à l'aise pour chanter la paix, voilà.
C'est la raison de votre venue en France, c'est ça, pour parfaire votre formation dans ce domaine, et musical et psychologique, j'allais dire?
C'est ça, oui, je suis en France pour ça et je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour organiser ce voyage, pour aider, ça c'est une contribution, une grande contribution pour l'avenir de nos enfants en République démocratique du Congo. Mais aussi, moi, j'ai une autre approche concernant l'éducation à la paix pour les enfants, parce que j'ai dit, pour la région des Grands Lacs, nous devons encadrer ces enfants qui n'ont encore adhéré à aucune idéologie et qui peuvent transformer le monde, et j'en suis sûr, parce que si nous avons déjà plus de 170 enfants et qui peuvent aller donner un message de paix partout et pour chanter la paix, et je crois que Bukavu peut transformer le Congo et la région des Grands Lacs. Je me rappelle qu'on nous disait à l'école que voilà, les premières sociétés civiles qui sont un pouvoir, donc des pressions contre tout ce qui se passe dans notre pays et dans normal, ces sociétés civiles ont pris naissance, les premières sociétés civiles ont pris naissance à Bukavu, en RDC, voilà.
Merci Daniel Rugamika. Votre prochain concert, ça sera quand et ça sera quel thème?
Notre prochain concert, c'est au mois d'avril. Oui. À mon retour, je dois réunir tous ces enfants. Je n'ai pas encore la date précise, mais bon, voilà, on va préparer, mais c'est au mois d'avril et peut-être que, voilà, on pourra vous envoyer quelques audios de notre concert, le message de paix, voilà.
Volontiers. Votre répertoire, ça sera?
Oui, notre répertoire, d'abord, il est tiré, puisé dans notre culture africaine, d'abord, parce que nous, c'est la danse, voilà, associée au chant. Il y a aussi le chant d'épée. Nous essayons aussi pour adapter cette capacité d'appréhension des enfants à aborder quelques morceaux donc d'origine occidentale comme
Jean-Sébastien
Bach, oui. Voilà, Handel et d'autres morceaux qui aident les enfants à travailler, voilà.
Merci, je vous remercie Daniel, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Daniel Rugamika, chef de chœur de la chorale des petits chanteurs de la résurrection de l'archidiocèse de Bukavu. Partons à présent au Pakistan avec le reportage de Laurence Desjoyeaux, grand reporter à l'hebdomadaire La Vie. Laurence, bonjour.
Bonjour.
Dans le sillage de l'affaire Asia Bibi, vous êtes allée enquêter au Pakistan. Alors même si l'affaire est mondialement connue, quelques rappels. Asia Bibi, c'est donc cette mère de famille pakistanaise d'une quarantaine d'années de confession chrétienne qui a passé 9 ans en prison pour blasphème. La Cour suprême du Pakistan l'a quittée le 31 octobre dernier. Elle est sortie de prison, mais elle n'a pu quitter le Pakistan car une demande de révision sous la pression des islamistes a été déposée et actuellement elle est en résidence surveillée car elle risque sa vie le premier pas dehors. Être chrétien au pays d'Asia Bibi, c'est donc le titre, Laurence, de ce grand reportage que l'on peut lire en version papier cette semaine et retrouver sur le site de lavie.fr. Alors déjà, ce reportage, il se déroule essentiellement donc dans la région de Lahore, c'est-à-dire au Punjab.
Voilà, donc en fait, moi je suis partie dans la région où vivait Asia Bibi, non pas tellement sur ses traces, mais pour essayer de comprendre en fait la toile de fond de ce qu'est Asia Bibi. En fait, qui étaient les chrétiens du Pakistan et que vivaient-ils réellement dans leur vie quotidienne dans ce pays, le Pakistan, un pays à très très grande majorité musulman, un pays qu'on connaît assez mal. Donc voilà, je suis partie dans cette région de Lahore, et puis après je suis allée à Karachi, donc tout autre contexte, au sud du pays, pour un peu avoir deux points de vue sur cette situation des chrétiens. Mais c'est effectivement à Lahore que j'ai passé le plus de temps, dans cette région du Punjab, où la région peut-être où les chrétiens sont le plus discriminés.
Donc le Punjab, effectivement, une région où il y a le plus de chrétiens au Pakistan. Alors donc des chrétiens issus de l'évangélisation, c'est cela au 19e voilà. siècle. Hein.
En fait, les chrétiens, ils revendiquent de descendre, entre guillemets, de l'apôtre Saint Thomas. Donc c'est cet apôtre qui a évangélisé les Indes, un disciple de Jésus. Et un dominicain pakistanais donc m'a expliqué que, selon la tradition, Saint Thomas se serait arrêté dans les environs d'Islamabad en 45 après Jésus-Christ, avant de rejoindre les Indes où il est mort, et donc il y avait déjà depuis les débuts du christianisme en fait une toute petite communauté de chrétiens, mais en fait qui a rapidement disparu selon lui, ou rejoint la région du Kerala. Donc en fait, quand les missionnaires occidentaux européens arrivent à la fin du 19e siècle, il y a plus de chrétiens. Enfin, il y a peut-être encore des traces, mais voilà, donc c'est un christianisme d'évangélisation. Donc ce sont des chrétiens majoritairement du Punjab qui étaient issus des plus basses castes hindous, donc des intouchables, et qui en fait ont vu aussi dans la religion chrétienne une voie d'émancipation pour essayer de sortir en fait de leurs conditions d'esclaves en fait.
Cela dit, aujourd'hui, lorsque l'on lit même le début de votre reportage, hein, dans ces briqueteries, ils sont quand même des esclaves modernes, hein, très clairement. Quand voilà. On voit cet ouvrier qui fabrique pour 4 euros par jour 1000 briques,
Voilà, donc en fait,
c'est l'esclavage moderne.
Aujourd'hui, l'une des discriminations dont sont victimes les chrétiens, ce dont j'ai pu me rendre compte sur place, c'est qu'ils subissent une discrimination économique et sociale, en fait. Ils font toujours partie, pas tous, mais une bonne partie d'entre eux font toujours partie des catégories les plus pauvres de la population. Alors officiellement, le système de caste n'a plus cours au Pakistan, mais de fait, ils sont souvent cantonnés aux métiers les considérés comme les plus salissants, on va dire. Et puis, ce qui est frappant, c'est que régulièrement, vous avez des offres d'emploi pour des métiers de balayeur, des boueurs, etc., qui précisent que le poste est ouvert aux non-musulmans. Et dans la région de Lahore, l'écrasante majorité des balayeurs, des éboueurs, des vidangeurs, des goûts sont des chrétiens. Donc en fait, il y a cette espèce d'étiquette d'intouchable qui leur colle encore à la peau. Et donc, ils sont, oui, il y a cette discrimination sociale qui est forte. Et pour montrer un peu la prégnance de ce stéréotype, en fait, il y a l'insulte de Tchoura, qui veut dire balayeur, qui est collée un peu à tous les chrétiens, quel que soit leur niveau social. Enfin, voilà, c'est pas rare que les chrétiens se fassent traiter de Tchoura, qui est un péjoratif.
Alors, on n'a pas précisé leurs chiffres, les chrétiens, un peu moins de 2 millions, hein, c'est cela.
Alors, les chiffres ne sont pas très clairs, parce que le dernier recensement date d'il y a assez longtemps. Donc, on dit environ 2,5 millions de chrétiens, entre 1 et 2% de la population. Et ces chrétiens, il faut préciser qu'ils sont pour une part catholiques, pour une part protestants, puisqu'ils ont cette double influence. Beaucoup de protestants sont rattachés à ce qui s'appelle l'Église du Pakistan, qui regroupe différentes dénominations et qui est rattachée à l'Église anglicane. Et aux côtés de cette Église du Pakistan, il y a toute une myriade de petites communautés d'inspiration pentecôtiste qui se créent, qui sont appelées un peu péjorativement les églises champignons. Voilà, ça montre une idée du développement.
Oui, avec des pasteurs autoproclamés. Alors, je reviens sur le début de votre reportage, Laurence Desjoyeaux, donc qui se déroule à Joseph Colony. Alors, c'est la grande misère, c'est un bidonville. Vous avez rencontré des familles là-bas.
En fait, l'histoire de Joseph Colony, elle est un peu à l'image de ce que vivent ces chrétiens les plus pauvres au Pakistan. Donc, en fait, Joseph Colony, c'est une sorte de bidonville en dur qui a été construit sur des anciens marécages. À l'époque, c'était en dehors de la ville. Maintenant, c'est devenu un peu à l'intérieur. C'est une colonie chrétienne, en fait. On dit colonie, c'est des petits quartiers chrétiens. Il y en a environ une dizaine dans Lahore. Et c'est un quartier très pauvre. Enfin, la saleté repoussante.
Pas d'électricité.
L'électricité par intermittence. Réseau d'eau, évidemment, déplorable. Et puis, les familles vraiment entassées dans des petits logements. C'est vraiment une famille par chambre. Et là, en fait, les chrétiens travaillent dans les aciéries, des petites usines, des petits ateliers de traitement de l'acier autour. Et en fait, Joseph Colony a été victime de ce qu'on appellerait un peu chez nous un pogrom en 2013. Voilà, c'est une histoire de blasphème qui a dégénéré. Donc en 2013, après une dispute alcoolisée, un homme a accusé un chrétien, un musulman a accusé un chrétien d'avoir blasphémé. Et en fait, ça a déclenché ce que les gens appellent là-bas une mob, une espèce de manifestation de la foule qui détruit tout sur son passage.
Une hystérie collective.
Voilà,
quoi.
Une hystérie collective qui est un peu aiguillonnée quand même par des mollahs locaux qui sont prompts à déclencher la colère de la foule. Et donc en fait, en quelques heures, tout ce quartier est parti en fumée, sans 150 maisons, les petites églises qui sont présentes sont parties en fumée. Alors heureusement, la population avait été évacuée avant par la police en disant on va rien pouvoir faire pour vous. Mais donc il n'y a pas eu de victimes, mais en fait ça a vraiment traumatisé le quartier. D'autant plus que en fait c'était vraiment les voisins. Donc on est là dans la complexité de la vie pour les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils se font accuser de blasphème, dans des accusations un peu...
De voisinage, comme Asia Bibi.
Des disputes de voisinage, exactement, comme Asia Bibi. Et ça peut avoir des conséquences énormes pour toute une communauté. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucun coupable qui a été emprisonné. Par contre, la personne, le chrétien qui a été accusé de blasphème, lui, il a été condamné à mort. Alors, ces condamnations à mort, elles ne sont pas mises en application tout de suite. Il y a plein de recours, d'appels, etc., comme pour le cas d'Asia Bibi. Mais donc, il est dans une prison à 2 heures de chez lui. Et lui, ça fait donc depuis 2013.
Ouais. Et les juges ont peur.
Voilà,
c'est ça le problème au Pakistan.
Exactement.
Il faut être très courageux.
La justice est assez lente. Oui. Alors, Alors le cas Asia Bibi a montré que la justice faisait son travail. La justice pakistanaise, appel après appel, finalement, sur le très long temps, avait fait son travail. Mais ce qui est compliqué, c'est que les audiences sont sans cesse repoussées parce que les juges sont sous pression des islamistes et pas forcément que les clercs. Il faut préciser qu'il y a une association d'avocats au Pakistan qui s'appelle le Mouvement pour la finalité du prophète, qui s'est donné pour objectif de faire condamner à mort tous les cas de blasphème. Le mouvement revendique 700 avocats qui, dont le seul but est de faire pression et de pousser les cas pour que les gens soient condamnés.
Est-ce que les chrétiens de ce quartier, hein, notamment du Joseph Colony, ont été dans la crainte d'être les victimes de représailles après que Asia Bibi donc a pu connaître sa relaxation?
Oui, tout à fait, et ça illustre bien la complexité de leur situation et aussi la complexité du rapport des autorités aux chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, dès que on a su que Asia Bibi, il allait y avoir une décision sur son cas, la police est venue voir les responsables locaux en disant, voilà, si elle n'est pas relaxée, est-ce que vous allez faire des manifestations de colère, etc., etc. Les chrétiens ont dit, bah non, on se conformera à l'avis de la cour. Et de même, ils ont dit, bah voilà, si elle est relaxée, on viendra vous protéger parce que il risque d'y avoir des représailles. Donc en fait, dans ce quartier de Joseph Colony, à partir du moment où la décision a été connue, il y a eu plusieurs forces de police qui sont venues prendre position dans le quartier. Les entrées de ce petit quartier, des ruelles qui mènent à ce quartier, ont été bâchées pour éviter toute entrée. Et voilà, les chrétiens, pendant une nuit, sont restés un peu aux aguets, protégés par la police contre d'éventuelles représailles, puisque dans tout le pays, il y a eu des manifestations haineuses, voilà, peut-être de la part d'une minorité, demandant la pendaison d'Asia Bibi.
Qui sont ces personnes effectivement qui manifestent dans les rues? Est-ce qu'elles sont victimes d'une certaine façon d'un illettrisme, d'une sous-éducation? Est-ce que c'est cela? Parce que vous évoquez quand même dans ce reportage, notamment quand vous parlez de cette hystérie collective, hein, dans ce quartier de Lahore, en 2013, eh bien vous évoquez des étudiants de madrassa.
En fait, il y a plusieurs... moi, je suis pas spécialiste de ces mouvements, mais il y a plusieurs choses. Souvent, ce sont des foules, effectivement, de gens qui sont pas forcément très lettrés ou alors qui sont un peu victimes d'une certaine frustration économique, qui sont prêts à suivre un peu les mouvements, qui sont aiguillonnés par des clercs qui jouent là leur partie et qui aiguillonnent une foule pour servir leurs intérêts. Dans le cas d'Asia Bibi, il y a un parti politique qui s'appelle le TLP, qui a été très très en pointe sur les manifestations contre la libération d'Asia Bibi. C'est un parti qui a fait de son seul argument politique la défense de la loi blasphème. Et donc là, après la libération d'Asia Bibi, c'est eux qui ont aiguillonné les manifestants avec d'autres partis islamistes, mais c'est eux qu'on a beaucoup vu, qui ont aiguillonné les manifestants. Et le leader de cette organisation, ainsi que 50 autres membres, ont été arrêtés justement à la suite de ces manifestations par le pouvoir.
Oui, parce que les autorités veulent protéger les chrétiens. Et il faut dire aussi, ça on en parlera après, que les musulmans sont aussi victimes de cette loi sur le blasphème.
Oui, tout à fait.
Une
tout
loi
à fait,
ouais. Qui est un tabou. On ne peut pas du tout la supprimer.
Alors, concernant les autorités, en fait, ce que je dirais, c'est qu'il y a un peu deux choses. D'une part, dans la Constitution est inscrit la possibilité pour les minorités de pratiquer leur religion. Et en même temps, dans cette même Constitution, déjà, se trouvent des discriminations. C'est-à-dire que le président et le premier ministre, c'est forcément des musulmans. Ensuite, toute la loi pakistanaise peut être revue par une cour de la charia qui quand même est chargée de s'assurer de la conformité du droit avec l'enseignement de l'islam. Donc voilà, pour les minorités, il y a déjà une forme de discrimination constitutionnelle. Ensuite, dans la vie quotidienne, le gouvernement, effectivement, cherche plutôt à protéger les chrétiens et ne met pas du tout son nez dans les constructions d'églises, la vie des séminaires, etc. Mais en revanche, il y a quand même dans la loi pakistanaise cette loi blasphème qui est vraiment l'épée de Damoclès pour les chrétiens, mais aussi, comme vous le dites, pour les musulmans. Voilà, mais dont les chrétiens sont victimes plus que proportionnellement, on va dire. Ils sont surreprésentés dans les victimes de cette loi blasphème.
Et il est impensable que cette loi, pour l'instant, soit supprimée. On risque sa peau si on prend cette position, hein. On l'a vu au Pendjab.
Oui, voilà. Donc, en fait, cette loi blasphème, c'est vraiment... un tabou et il y a peu d'espoir qu'elle soit supprimée. Ça semble vraiment impensable aujourd'hui. Il y a des voix quand même qui s'élèvent pour que elle soit amendée afin que soient évitées justement les dérives. La dérive de la loi blasphème, c'est quoi? Pour n'importe quelle dispute de voisinage à propos d'un terrain, à propos de tout et n'importe quoi, vous allez accuser votre voisin de blasphème et c'est vraiment le plus sûr moyen de l'envoyer en prison. Justement, il y a eu des voix qui se sont élevées pour qu'il y ait un amendement punissant plus sévèrement les fausses accusations ou alors renforçant la demande de preuves. Voilà, qu'il y ait peut-être plus de témoins, qu'il y ait un amendement en ce sens. Le Sénat s'est un peu emparé de la question, mais pour l'instant, il n'y a aucun changement. Et c'est sûr que toute volonté de changer la moindre virgule de cette loi débouchera sur des manifestations. Enfin voilà, ce serait vraiment un bras de fer.
Ça nourrit en quelque sorte un populisme à la pakistanaise.
Ça nourrit une sorte de populisme à la pakistanaise. Et en fait, pour illustrer un peu cette relation compliquée entre l'État et les chrétiens, un de mes interlocuteurs, qui est un activiste chrétien, qui est très reconnu, qui s'appelle Peter Jacob, m'a dit en fait, cette loi blasphème, c'est l'arme que donne le gouvernement aux plus extrémistes dans ce pays.
L'arme létale, même.
Voilà, hein, l'arme létale, il dit. C'était son expression.
Très, 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 très forte. Il y a aussi ce syndicaliste musulman dont vous parlez, qui œuvre justement pour cette égalité, pour cette justice au Pakistan.
Ouais. Donc, c'était une belle figure de ce reportage. C'est un syndicaliste musulman qui défend les travailleurs de la brique, qu'ils soient chrétiens ou musulmans.
Il y a beaucoup de chrétiens, majoritairement.
Voilà. Oui. Il faut savoir que les travailleurs de la brique, 30% d'entre eux sont chrétiens. Donc, quand on sait qu'ils sont entre 1 et 2% au Pakistan, voilà, là encore, ils sont surreprésentés. Mais bien sûr, ce travail de la brique ne concerne pas que les chrétiens. Et donc, ce musulman défend les travailleurs de la brique. Donc, avec lui, je suis allée dans une briqueterie où il était en bisbille judiciaire avec le propriétaire. Donc, c'était assez important pour lui aussi. Et en fait, il expliquait que les plus pauvres, la loi blasphème pour eux, c'était la double peine. Parce que déjà, elle subissait une forme d'esclavage moderne dans ces briqueteries, même si la loi a beaucoup changé, elle n'est pas forcément appliquée. Et ensuite, les propriétaires, quand il y avait un différend avec le salarié, eh ben on pouvait les accuser de blasphème. Et donc c'est ce qui est arrivé à un couple chrétien, c'est vraiment une histoire qui a choqué tout le Pakistan. En fait, c'est un couple chrétien qui voulait partir de la briqueterie dans laquelle il travaillait. Et bizarrement, dans les jours qui ont suivi, ils ont été accusés de blasphème. Pareil, une foule haineuse a investi la briqueterie. Ce couple a été protégé par certains autres employés, mais qui n'ont pas pu faire front face à cette foule haineuse. Et donc ce couple a quand même été brûlé vif dans le four de la briqueterie.
Laissant plusieurs enfants orphelins.
Laissant 3 enfants orphelins que j'ai pu rencontrer et qui maintenant sont sous la charge de leur grand-père.
On terminera, Laurence Desjoyeaux, sur une note positive. Cette rencontre, vous avez eu beaucoup de chance, hein, cette rencontre dans la mosquée de Lahore, c'est cela?
Voilà.
Donc, avec l'imam et puis un dominicain. Racontez-nous.
Voilà. C'est pour aussi montrer une face plus lumineuse du Pakistan qui existe réellement. Voilà, la situation des chrétiens, elle est complexe et elle est aussi diverse. C'est-à-dire que depuis les années 70, il y a des ponts vraiment qui sont lancés entre les communautés et un dialogue interreligieux. Eux, ils ont beaucoup développé le concept d'harmonie, harmonie entre les religions, qui se développe. Deux grandes figures de ce dialogue sont le dominicain James Shannon, qui a créé le Centre de la Paix en 2010, un lieu de rencontre. Et l'autre figure, c'est le grand imam de la mosquée de Lahore, qui a pris la suite de son père à cette fonction et aussi la suite de son père dans le dialogue, puisque voilà, il dit qu'il en a fait le but de sa vie, en fait, de développer le dialogue et l'harmonie entre les communautés. C'était vraiment une belle rencontre. Je dirais aussi une rencontre en vérité, parce que parfois le dialogue interreligieux peut être un peu instrumentalisé, et là vraiment on sentait que c'était pas le cas et que c'était deux hommes de foi qui avait vraiment un désir véritable d'arriver à plus de liens et d'harmonie et de paix entre ces communautés.
Rencontre au sein donc de la mosquée de Lahore.
De la très grande mosquée de Lahore.
Alors qu'il n'y avait plus de visiteurs, plus
de
touristes.
Une visite de nuit assez lunaire et magnifique, qui effectivement donnait à voir une autre image du Pakistan.
Un Pakistan dont on voudrait retrouver l'esprit
exactement,
du fondateur.
Exactement. Hein, voilà. Donc c'est ce que disent les chrétiens en fait. C'est, ils espèrent que le Pakistan retrouve l'esprit de son fondateur. Ils citent souvent une phrase du fondateur Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, fondateur du Pakistan, qui est mort malheureusement deux ans après la fondation du Pakistan, et qui lui avait dans ses tout premiers discours après la création du Pakistan Tristan dit « Vous êtes libre, libre d'aller dans vos temples, libre d'aller dans quelque lieu de culte que ce soit, vous êtes libre d'appartenir à quelque religion que ce soit », cela n'a rien à voir avec les affaires de l'État. Voilà, il parlait d'un Pakistan où les citoyens seraient égaux. Et en fait, c'est ce que souhaiteraient retrouver les chrétiens.
Et certainement aussi un bon nombre de musulmans.
Oui, tout à fait, oui, évidemment.
Merci Laurence Desjoyeaux. Donc je rappelle que l'on peut retrouver votre beau reportage sur le site de La Vie et puis en version papier cette semaine. Merci.
Merci.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Olivier Raoul vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.